Chapitre 3. Le comte Cabarrot était trop fin diplomate pour faire prématurément confidence à ses meilleurs amis de l'espoir charmant qu'il avait conçu. Il gardait au contraire la réserve la plus complète le soir de ce beau jour où l'empereur lui avait daigné promettre d'intervenir en sa faveur. Mais, malgré cette discrétion, un si complet épanouissement dilatait son laid visage, élargissait sa face plate que le prince archi-chancelier, non moins que monsieur d'Aigrefeuille et autres, ne purent s'empêcher d'en faire la remarque. « Faites-moi le plaisir de me dire ce qui charme si fort Cabarrot ce soir, » se disait-on. C'était bien simple. Le tendre Cabarrot pensait à sa prochaine union avec mademoiselle Irnois. Ici, quelque lecteur s'imaginera peut-être que le comte, n'ayant jamais vu sa belle ni entendu parler de ses infirmités, se préparait à lui-même une douloureuse reculade. On croira peut-être qu'il n'aurait pas voulu d'une jeune femme dans l'état de la pauvre Emelina. Qu'on se détrompe, il faut ici connaître le comte Cabarrot tout entier. Pour 600 000 livres de rente, et même pour beaucoup moins, il aurait sans hésiter donné sa main à Carabosse avec tous les travers de taille et les monstruosités d'humeur de cette fée célèbre. Le comte Cabarrot était un homme positif. Je dis donc que ce soit là, dans le salon du prince Cambacérès, il fut adorable d'esprit et de gaieté. Lorsque, la foule s'étant retirée, il n'y eut plus autour de la cheminée qu'un petit nombre d'intimes. Il se mit à raconter une foule d'aventures plus ou moins risquées avec un goût, un tac, un mordant qui lui valurent des applaudissements unanimes. Il était si heureux. Dans la maison de la rue des Lombards, la sensation ne fut pas absolument la même. Lorsque la missive impériale avait été remise à M. Irnois avait ressenti une profonde terreur. L'idée de paraître devant son souverain n'avait pas fait naître en lui ce sentiment d'orgueil qui gonfle aujourd'hui la poitrine de tout officier de la garde civique, enlevé pour la première fois au tonneau obscur où croupit son résiné, pour briller, astre nouveau, dans les régions lumineuses d'un bal de la cour. Monsieur Irnois était comme tous les gens à argent de ce temps-là, il n'aimait pas le contact du pouvoir, le mot « gouvernement » le faisait frissonner. Il ne voyait dans les hommes dépositaires de l'autorité que des ennemis nés de sa caisse, des harpies toujours en quête de spoliation. Il manqua tomber de son haut lorsqu'un gendarme lui remit le hâtie-shérif qui le mandait au palais. Il arriva pâle et la figure renversée dans ce salon où bavardaient sa femme et ses belles-sœurs, et bien que ce fût chose assez rare chez lui que de parler de ses affaires ou de demander conseil, il se planta au milieu de l'aréopage féminin et, tendant sa lettre d'un air désespéré, il s'écria « Mille noms d'un diable ! Regardez quel pavé me tombe sur la tête !» Six yeux s'illuminèrent de curiosité, six bras s'étendirent, six mains, armées en tout de 30 doigts crochus, voulurent se saisir de l'épide qui bouleversait à tel point le maître du logis. Mademoiselle Julie Maigrelet fut la plus agile. Elle s'empara de la lettre et la lut rapidement tout haut, puis elle se laissa tomber dans son fauteuil en s'écriant « Ah, mon Dieu !» Mademoiselle Catherine Maigrelut saisit au vol le précieux papier tombé des doigts de sa sœur et s'écria de même après l'avoir lu tout haut. « Ah, mon Dieu !» Madame Irnois, ne pouvant croire ce qu'elle avait entendu deux fois déjà, récita ainsi que ses sœurs le contenu de la lettre et donna, comme elle, des témoignages évidents de sa désolation profonde. Les trois femmes pensèrent un instant qu'il ne s'agissait de rien moins que de faire un très mauvais parti à Monsieur Irnois. L'ancien fournisseur fut cependant plus brave que ses compagnes et les assura que, suivant toute probabilité, les choses ne viendraient pas là. D'ailleurs, ce serait par trop inique. Jamais il n'avait mal parlé d'aucun gouvernement et de celui de l'empereur moins que tout autre. Ses contributions avaient toujours été régulièrement payées. Sans doute il y avait eu jadis quelque peu à redire dans la manière dont il avait chaussé les régiments. Mais toutes ces peccadilles étaient passées depuis longtemps et d'ailleurs il n'avait jamais été en nom dans les fournitures. Décidément, l'empereur ne pouvait lui vouloir le moindre mal. Que lui voulait-il donc ? Mademoiselle Julie Maigrelut fut la première à ouvrir un avis important sur cette question nouvelle. Je dis nouvelle parce que du noir on était passé au rose. Elle insinua que l'empereur mandant son frère innocent comme un agneau, il fallait absolument que ce fût pour le récompenser. Mais récompenser de quoi ? De son immense fortune, répondit aussitôt Mademoiselle Maigrelut. Elle a raison, dit Mademoiselle Julie. Elle a 100 fois raison, murmura Madame Irnois. Me récompenser ? S'écria le Richard. De quelle manière ? On ferait mieux de me laisser tranquille, ventre bleu. Je ne serais pas étonné, mon frère, reprit Mademoiselle Julie, que Sa Majesté impériale voulût vous faire duc ou maréchal de l'Empire. Vraiment, un homme si riche que vous, il n'y aurait rien de surprenant. Vous êtes trois sottes, cria Monsieur Irnois d'une voix tonnante. Pour devenir maréchal, il faut avoir été soldat. Il me nommera plutôt baron. Enfin, n'importe, je veux que la peste m'étouffe si je suis bien amusé d'aller parader dans ces Tuileries. Comment faudra-t-il m'habiller ? Ce fut encore une délicate question. On ouvrit et l'on repoussa beaucoup d'avis. Enfin, on se rangea au seul raisonnable, qui fut d'appeler le tailleur et de le consulter. On n'avait que trois jours devant soi. La précipitation ne pouvait être trop grande. La désolation de M. Irnois fut sans borne lorsqu'il apprit le soir même qu'à toute force il lui fallait endosser habit brodé, culotte de casimir, bas de soie blanc, souliers à boucles, chapeau à claques, et se faire friser et s'embrocher d'une épée et mettre des gants. Cependant, il se soumit, et tout en jurant et en se démenant comme une mécanique, il s'abandonna aux soins du malheureux, du trop malheureux artisan chargé de donner des grâces à sa personne. La maison était sans dessus-dessous, et cependant, Emmelina ne prenait pas la moindre part au terrible événement déchaîné autour d'elle. Lorsque la lettre du château avait été montrée par son père à sa mère et à ses tantes, elle était seule dans sa chambre suivant son usage. Le soir, elle entendit parler autour d'elle de ce qui allait advenir. On lui dit même, ce fut Mademoiselle Catherine, « Tu ne sais pas, Emmelina, ton père qui va après-demain à la cour. C'est joli, ça, ma petite. » Emmelina sourit doucement en regardant qui lui parlait, mais elle ne répondit pas et ne parut même avoir compris que médiocrement ce qui lui avait été dit. Sa mère la contempla avec anxiété, puis leva les yeux au ciel en soupirant profondément. Dans ce moment, Madame Irnois ne fut plus la grosse et sotte bourgeoise que nous connaissons, mais une espèce de niobée, tant il y avait de vraies et profondes douleurs dans ce regard lancé vers les régions où l'on va si souvent en vain demander soulagement. Emmelina devenait de jour en jour plus absorbée. Elle n'était pas plus triste, mais elle parlait encore moins et ne s'intéressait plus à rien absolument. Ni le bavardage de ses tantes, ni les caresses de Jeanne, ni Peau d'Âne, ni l'ourlet ne pouvaient plus rien sur elle. Les tendresses même de sa mère ne semblaient plus lui tenir à cœur. Autrefois, du moins, elle les cherchait. Maintenant, elle paraissait plutôt les éviter, car elle les recevait avec indifférence ou montrait même en être impatientée. Et cependant, était-elle malheureuse ? Ce n'était pas croyable, car elle avait parfois sur la bouche et dans les yeux comme un fin sourire, comme une flamme subtile qui dénotait un bien-être infini. Quand on la regardait à la dérobée, on la voyait plonger dans une sorte d'extase qui semblait l'enivrer des plus ardentes délices. Elle ressemblait alors à une des saintes du Moyen-Âge, et si les gens de son entourage eussent su ce que c'est que l'intelligence, ils en auraient vu la plus sublime expression sur cette figure inspirée. Il fallait que cette puissance de l'exaltation fût pourtant bien vive, car Jeanne tombait quelquefois dans des contemplations muettes devant sa maîtresse et restait partagée entre l'admiration et une secrète terreur. Quand elle s'arrachait à cet état si étrange pour elle, elle sortait de la chambre sur le bout du pied, sans faire de bruit, et s'en allait dans sa cuisine s'écrier « Jésus, Jésus, que Mademoiselle Emmelina ressemble à la Sainte Vierge !» La grande crise qui avait lieu autour de la jeune extatique ne produisit donc aucune impression sur cette imagination perdue dans une autre sphère, et M. Irnois dut se passer, dans ses hautes préoccupations, des sollicitudes filiales. Du reste, il n'en sentit pas le vide. Il ne pouvait être exigeant, il était d'ailleurs si absorbé, suspendu entre la crainte et l'espérance, écoutant, tour à tour, les conjectures de son conseil privé et les importantes communications de son tailleur, qu'il n'avait pas le temps de chercher à diviser ses pensées entre sa présentation à l'empereur et la tranquillité trop complète de sa fille. Il eût été d'ailleurs impossible de rêver à la fois à deux choses différentes. Enfin, il arriva le grand jour où, aux yeux émerveillés de toute la maison, dont les locataires avertis s'étaient ameutés sur les différents paliers, M. Pierre-André Irnois franchit le seuil de sa porte en grand costume de cour, suivi du secrétaire intime qui, laquais ce jour-là, descendait l'escalier en se laissant glisser le long de la rampe pour arriver plus vite à la voiture de louage et ouvrir la portière. M. Irnois, le riche capitaliste, était d'autant plus laid et disgracié de la nature en cette circonstance mémorable que sa toilette était plus somptueuse et étalait davantage la prétention de faire ressortir des avantages physiques. Je ne puis m'empêcher de jeter en courant un coup d'œil détracteur sur ses pauvres bas réduits à envelopper, ce qui l'enveloppait, sur cette pauvre culotte de Casimir, flottant en plis mal gracieux autour de ses cuisses qu'on devinait décharnées, sur ce maigre corps orné d'un jabot et d'un habit marron brodé d'argent, sur cette pauvre et déplorable épée. La voiture roula comme elle put, car elle était fort antique et délabrée, et atteignit les abords du carrousel. En ce temps-là, on aimait fort le luxe, et le souverain, qui voulait ranimer le commerce, en ordonnait l'étalage. M. Irnois ne fut pas autorisé à faire rouler son équipage sur la noble poussière de la cour impériale. Il mit pied à terre et, sa lettre d'audience à la main, gagna, non sans quelques risques, à travers les voitures et les chevaux, l'escalier d'honneur. Il y avait grande réception. À côté de l'aide de camp de service qui appelait le nom de tous les présentés, se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, assez laid, mais portant physionomie fine, madré et spirituelle. C'était le comte Cabarrot, fort inquiet de l'arrivée de son futur beau-père. L'aide de camp, ayant jeté les yeux sur la lettre d'invitation et sur le personnage qu'il avait remise, lança un regard significatif au conseiller d'État. Celui-ci toisa fixement son futur beau-père. Mais au lieu d'assister ainsi à une réception impériale, ce qui est bien trop grand honneur pour ce petit récit, mieux vaut nous en retourner dans la sphère plus humble du salon de Madame Irnois. Là, plus de splendeur, assez de magnificence, plus de cette pompe un peu théâtrale comme on l'entendait sous l'Empire. Une lampe brûle assez tristement sur un guéridon au milieu de l'appartement. La tante Julie tricote, la tante Catherine tricote, et Madame Irnois tricote aussi. Émelina est auprès du feu dans son fauteuil et, les yeux fixés sur les charbons, considère, probablement en y plaçant l'acte qui se joue lentement dans sa tête, le monde igné dont la flamme change à chaque instant les formes. L'inquiétude est à son comble. Tout le monde parle à la fois. Jeanne a servi longtemps de messager entre les terreurs du salon et celles de la cuisine, mais les émotions sont trop vives. La cuisine monte au salon et entend parler roi, empereur, maréchal, baron, duc, prison et mort, on se croirait dans une réunion politique. Enfin, un violent coup de sonnette se fait entendre. Le cri de haut, très prolongé, s'échappe de toutes les bouches. La cuisinière court ouvrir. Monsieur Irnois se précipite dans le salon, pâle, non, blême, les yeux flamboyants, et jurant contre toutes les divinités de l'Olympe, à part le Styx, qu'il ne put nommer, ne le connaissant pas. Certes, depuis le jour où le bourgeois, le comte, le procureur, la dame philanthrope, ses anciens maîtres, lui donnèrent son congé, il n'avait pas été plus démonstratif dans sa colère et dans son dépit. Mais, aux emportements de son langage, se mêlait un sentiment de frayeur qui n'échappa à aucun des témoins de cette scène émouvante. Enfin, M. Irnois, ayant beaucoup juré, lança son chapeau à claque à la tête du secrétaire intime, s'assit brusquement devant le feu, et ayant mis à la porte par un dernier éclat de voix tous les échappés de la cuisine, il commença à satisfaire la curiosité trop surexcitée de sa famille. « Au nom de tous les saints !» s'écriaient les trois femmes. « Dites-nous ce qui vous est arrivé !»« Je suis un homme perdu, ruiné par d'affreux scélérats !» s'écria M. Irnois. Voilà ce qui m'est arrivé. Mille noms d'un. Ah, mon Dieu! Dans quelle affreuse position je suis! Vous ne savez pas ce qui se passe? Eh bien, donc, j'entre dans les Tuileries. Une cohue, un bruit, une chaleur dont on ne se fait pas l'idée. J'étais pressé de voir l'empereur pour savoir ce qu'il me voulait et m'en retourner. J'arrive dans un dernier salon. On m'avait ôté ma lettre des mains. Je ne sais qui, je ne sais comment. J'étais ahuri. Un grand homme tout brodé, avec des épaulettes et un grand ruban rouge en travers, me pousse par l'épaule, car, ennuyé de tout ce fracas, je ne bougeais pas plus qu'un terme. Je ne voyais plus rien, et je me trouve nez à nez avec l'empereur. « Avec l'empereur ?» répéta l'assistance, à l'exception d'Emelina qui n'écoutait point. « Silence donc, bavarde infernale que vous êtes !» s'écria M. Irnois, en donnant un grand coup de pied dans les bûches, violence qui fit tressaillir, puis soupirer sa fille. « Silence donc, oui, l'empereur !» Et il me dit, cet empereur, en me montrant du doigt un homme placé derrière lui, « Préparez-vous à marier votre fille à monsieur le comte Cabarrot. Je le fais ambassadeur. » Ma foi, dans le premier moment, sans trop savoir ce que je disais, je m'écriais, « Donnez Emelina à ce... » Je n'allais pas plus loin, car l'empereur me jeta un regard. Oh, quel regard! Il me sembla que la terre s'enfonçait sous moi, que j'allais être emprisonné, fusillé, égorgé, massacré. Je me trouvais près de m'évanouir, il paraît même que je m'affaissais, car je fus soutenu dans les bras d'un misérable. C'était, le croiriez-vous, le misérable auquel l'empereur veut que je donne Emelina, qui osait m'empêcher de tomber. Je le regardais d'une façon, comme l'empereur m'avait regardé, mais cela ne lui produisit pas le même effet. Au contraire, il me fit une grimace en façon de sourire et me dit, Mon cher monsieur Hirnois, notre connaissance arrive un peu brusquement, mais n'en soyez pas moins sûr de mes respects. Nous avons des amis communs.
Je ne crois pas, lui répondis-je avec ce ton que vous me connaissez. Je n'ai pas d'amis.
Il ne fut pas étonné, et il me dit, en me saluant, « J'irai présenter mes hommages respectueux à madame Hirnois demain, sans faute. »«
Je serai sorti, m'écriai-je.
L'empereur vous ordonne de rester chez vous, toutes les fois que je vous en avertirai, » me répliqua-t-il en me regardant dans les yeux. J'eus peur, et je m'en revins.
« Concevez-vous une pareille position ?»«
C'est monstrueux !» s'écrièrent les femmes.
« Il vient demain, le monstre ?» demanda mademoiselle Julie.
« Demain, » dit Hirnois. « Eh bien, je suis d'avis, poursuivit la vieille fille, qu'on lui dise son fait en trois mots. Vous n'aurez pas Emmelina, vous ne l'aurez pas. Ah, dame !»«
Sotte que vous êtes !» hurla monsieur Hirnois.
« Il ira chercher la gendarmerie et je serai traîné en prison. »
« Aimez-vous mieux la mort d'Emmelina ?» dit la mère.
« Non, répondit monsieur Hirnois, mais quand je serai coffré, cela n'empêcherait pas le mariage. »
« Que faire donc ?» dit mademoiselle Catherine.
« Emmelina, dit la mère d'une voix pleine de larmes en se mettant à genoux devant sa fille.
« Emmelina, on veut te marier.
Emmelina, on veut t'emmener d'ici, mon cher amour. Réponds-moi, que veux-tu que je fasse ?